Voilà, alors la dernière fois, on a parlé des rites d'introduction pour la messe, hein, jusqu'à la l'oraison qu'on appelle la collecte. Hein, voilà. Cette fois-ci, ça sera la liturgie de la parole. Et les fois prochaines, on va passer au moins 2-3 fois sur la liturgie eucharistique. Voilà, alors donc aujourd'hui, c'est la liturgie de la parole. Alors, vous avez peut-être déjà lu, je ne sais pas, dans le missel, il y a toute une introduction dans le missel. Les préliminaires du missel romain. Voilà, alors vous avez plein de choses. Alors, voilà ce qu'il dit. La partie principale de la liturgie de la parole est constituée des lectures tirées de la Sainte Écriture avec les chants qui s'y intercalent. Cependant, l'homélie, la profession de foi et la prière universelle la développent et la concluent. Donc, c'est ce qu'on va voir cette fois-ci. Alors, donc, il y aura 6 points. Le premier, c'est sur l'écriture et la liturgie. Donc, on va regarder sous différents angles. Et puis après, bon, après ça va être simple, c'est les premières lectures, l'évangile, l'homélie, le credo et la prière universelle. Donc c'est pas trop inconnu pour vous, je pense, le plan. Mais d'abord donc le lien entre l'écriture et la liturgie, parce que lire sa Bible chez soi c'est très bien, mais c'est pas la même chose que d'écouter la parole de Dieu à la messe. Hein, donc c'est de voir un peu la spécificité, qu'est-ce qui change finalement. Quelquefois, on est mieux dans son fauteuil chez soi que dans une église un peu froide, etc. Mais voilà, en tout cas, il y a deux contextes, on pourrait dire, un peu particuliers pour lire la parole de Dieu. C'est ce qu'on appelle la liturgie ou la prière personnelle, mais on peut parler de la lectio divina aussi. Donc, c'est un moment où on travaille la parole de Dieu, où peut-être la part intellectuelle est plus importante. Voilà, donc c'est deux manières d'écouter la parole de Dieu qui sont différentes. Et alors, en tout cas, ça c'était un désir du Concile Vatican II de faire en sorte qu'il y ait davantage un accès plus large, plus varié aussi au texte de la parole de Dieu. Hein, dans la liturgie avant Vatican II, il y avait des textes de la parole de Dieu, mais moins largement. Hein, la division en 3 années, etc., ça c'est... C'est depuis le Concile Vatican II et je crois que c'est une bonne chose pour nous aider, pour aller puiser davantage dans la parole de Dieu. Et c'est intéressant parce que du coup, la liturgie, elle a choisi les textes, donc elle nous prémâche le travail. Si vous êtes à Noël, a priori, vous n'allez pas avoir le texte du Vendredi Saint. Voilà. Et par exemple, à Noël aussi, il y a toutes les prophéties de l'Ancien Testament qui préparent, etc. Donc la liturgie, le lectionnaire de la liturgie peut être une belle aide aussi pour se plonger dans la parole de Dieu. Donc, parce que du coup, ça nous facilite le travail, on pourrait dire. Et en même temps, quelquefois, ça peut nous... parce que dans la liturgie, les textes sont quelquefois un petit peu... mais qu'est-ce qu'il y a eu avant? Qu'est-ce qu'il y a après? Le contexte nous échappe un petit peu, au moins pour le dimanche, un peu moins pour la semaine, puisque pour l'évangile on suit à peu près, mais du coup voilà, c'est bon de, les deux sont complémentaires, hein, la lecture de la parole de Dieu seule ou de l'écouter pendant la liturgie. Mais du coup ce que je trouve intéressant, c'est que dans la liturgie, c'est d'abord le but de la parole de Dieu, c'est pas d'abord de nous enseigner, bien sûr, ça y contribue, mais c'est pour nous, c'est Dieu qui nous parle. Il y a une présence de Dieu particulière pendant la liturgie. Il y a eu un synode sur la parole de Dieu, et voilà ce que disait Benoît XVI qui parle de la parole comme d'un sacrement, on pourrait dire. Je vous lis Benoît XVI. La sacramentalité de la parole, j'espère que ça vous torture pas ces mots-là, se comprend alors par analogie à la présence réelle du Christ sous les espèces du pain et du vin consacrés. En nous approchant de l'autel et en prenant part au banquet eucharistique, nous communions réellement au corps et au sang du Christ. La proclamation de la parole de Dieu dans la célébration implique la reconnaissance que le Christ lui-même est présent et s'adresse à nous pour être écouté. Donc, ça, c'est ce qui fait la différence quand même entre le fait de lire sa Bible chez soi tout seul ou de l'écouter au cours de la liturgie. Alors là, même à la limite, si on est tout seul pour lire la liturgie des heures, comme on l'appelle, mais n'empêche que c'est la prière de l'Église et on est en communion avec tous ceux qui prient la parole de Dieu. Donc c'est vraiment Dieu qui se rend présent, mais a fortiori à la messe, où on est un certain nombre, plus ou moins nombreux, mais voilà. Donc c'est d'avoir à l'esprit que c'est Dieu qui s'adresse à nous pendant la messe. Du coup, il y en a qui disent, ben non, il faut arrêter d'avoir des missels, écoutez. Bon, en même temps, il y en a qui n'ont pas trop... Moi, je fais partie de ceux qui n'ont pas beaucoup de mémoire auditive, alors j'aime bien avoir un texte, ça m'aide, ça soutient mon attention. Mais en même temps, c'est vrai que si ça nous ferme un peu aux autres, ben c'est pas très réussi. Ben un extrait du Concile Vatican II. Le Christ est là, présent dans sa parole, car c'est lui qui parle, tandis qu'on lit dans l'Église les Saintes Écritures. Il est là, présent lorsque l'Église prie et chante les psaumes, lui qui a promis, là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Ou alors le pape François, on l'a déjà évoqué, mais il avait fait un commentaire de la messe, le pape François, et donc ça c'était en 31 janvier 2018. Nous nous rassemblons pour écouter ce que Dieu a fait et entend encore faire pour nous. C'est une expérience qui a lieu en direct et non par oui-dire. Et donc, il se réfère au Concile. Les pages de la Bible cessent d'être un écrit pour devenir une parole vivante prononcée par Dieu. C'est Dieu qui, à travers la personne qui lit, nous parle et nous interpelle alors que nous écoutons avec foi. Donc, quand vous faites une lecture, vous êtes à la place du bon Dieu pour parler aux autres. Hein. C'est ça que ça veut dire, finalement. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ça passe pas seulement par l'intelligence. Donc, quand on participe à la liturgie de la parole, il y a autre chose que ce qui passe par l'intelligence. Donc, c'est ce que le pape Benoît XVI, quand il parlait de la dimension sacramentelle, cette présence de Dieu qui agit en direct. Il y a aussi une dimension communautaire quand on lit la parole de Dieu. Alors, il y a des passages dans l'Ancien Testament, vous vous rappelez peut-être de certains passages. Il y en a un, c'est dans l'Exode au chapitre 24, je crois 19, mais je crois aussi 24. C'est tout le peuple qui écoute la parole de Dieu et tout ce que tu as dit, nous le ferons. Mais alors du coup, c'est pas une démarche seulement individuelle. C'est aussi le peuple où, dans le livre d'Esdras, je crois, alors c'est dans le livre de Néhémie, mais c'est Esdras. Il redécouvre les rouleaux de la parole de Dieu, alors il proclame la parole de Dieu. Et alors c'est une vraie expérience de tout le peuple de Dieu à ce moment-là. Et du coup, voilà, c'est autre chose de lire chacun dans son coin ou de lire la parole de Dieu tous ensemble quand on est réunis Alors j'ai mis ça aussi dans cette partie-là. Deux autres points, c'est que il y a un lieu d'où on proclame la parole de Dieu. On ne se contente pas de la lire, on la proclame. C'est l'ambon. Vous savez comment ça s'écrit ? A-M-B-O-N. Hein ? Et alors, ça vient d'un mot grec qui veut dire monter. Alors, c'est un lieu, a priori, on essaie de voir celui qui lit. Et voilà. Alors, ça fait partie de l'introduction au missel. La dignité de la parole de Dieu requiert qu'il y ait dans l'Église un lieu approprié d'où elle est annoncée et vers lequel se tourne spontanément l'attention des fidèles durant la liturgie de la parole. Il convient également que ce soit un ambon stable et non un simple pupitre mobile. Donc, a priori, ce n'est pas ça, mais c'est mieux. En fonction des données architecturales de chaque église, l'ambon doit être aménagé de sorte que les ministres ordonner les lecteurs puissent être bien vus et entendus par les fidèles. De Lambon sont prononcées uniquement les lectures, le psaume responsorial, l'Alléluia. On peut aussi prononcer l'homélie, les intentions de prière universelle. Voilà. Et peut-être davantage depuis Vatican II de soigner un peu Lambon. Alors dans un certain nombre de lieux, ils font en sorte qu'il y ait, ce soit un peu le même matériau à la fois pour Lambon et pour l'autel, pour rappeler que c'est les deux tables, la table de la parole et la table du corps de Jésus. Et d'ailleurs, on en reparlera un peu plus loin, mais pour faire le lien entre Lambon et l'autel, quand il y a des diacres, et quand la liturgie a une certaine solennité, quand le diacre arrive, il va d'abord poser l'évangéliaire, pas le lectionnaire, mais l'évangéliaire sur l'autel, hein, le lieu de la... Et c'est seulement au moment de, pendant la liturgie de la parole, où il l'amène jusqu'à Lambon, hein, pour voir le lien entre l'autel et Lambon. Bon, Et puis, le lecteur. Il importe beaucoup que les lectures soient bien faites. J'ai recopié des choses, hein, mais bon, je suis d'accord. Mais... Il n'est pas digne de désigner à la sauvette les lecteurs qui devront s'exécuter immédiatement. Avant de donner une lecture, il faut la préparer, la prier, s'en pénétrer. Ben, je trouve ça intéressant. Là, il parlait de la dignité donc, qui était marquée par Lambon. Un Lambon qui soit... on fera sans doute des progrès dans notre chapelle aussi pour ça. Mais aussi dans la manière de se préparer à faire la lecture. Si on pense que c'est la parole de Dieu, du coup, voilà, de faire en sorte qu'elle soit audible et voilà qu'on soit un petit peu habité par cette parole avant de la lire. Et il y en a qui sont institués lecteurs. Alors, il y a eu une nouveauté il y a 5 ans, je ne sais pas si vous êtes au courant à ce sujet-là. Alors, avant le Concile, ça faisait partie de ce qu'on appelait les ordres mineurs ou les... avant d'être prêtre, donc on était institué, lecteur, acolyte. Alors il y avait beaucoup de choses aussi avant le Concile. Et puis après, on est ordonné diacre, on est ordonné prêtre. Mais maintenant, depuis 72, les hommes pouvaient, pères de famille, pouvaient être aussi institués lecteurs. Et depuis 2021, des femmes aussi peuvent être instituées lectrices. Ou même acolytes. Alors ça s'est peut-être pas encore beaucoup fait, mais en tout cas, c'est quelque chose depuis... C'est le pape François qui a rendu accessible aux femmes laïques le lectorat et l'acolytat. Alors ça veut dire simplement que, si on institue quelqu'un lecteur ou acolyte, bon, il faut qu'il y ait un minimum de formation, qu'il y ait une approbation en quelque sorte, et que voilà, parce qu'il est mandaté pour ça par l'Église, pour lire mais les 99% des lecteurs, je crois, dans les paroisses, ils sont pas institués lecteurs, et puis ça veut pas dire qu'ils le font mal pour autant, hein, mais ça participe aussi de ce fait de dire voilà, c'est vraiment important de lire la parole de lire la parole de Dieu dans la liturgie. C'est un ministère particulier. Alors, deuxième partie, ça sera sur les premières lectures. Alors là, il y a des choses que vous savez déjà par cœur. Hein. En semaine, il y a une lecture avant l'évangile, et puis le dimanche, il y en a deux. Quand c'est le dimanche, la première lecture vient de l'Ancien Testament, sauf pendant un temps particulier, savez-vous ? Pendant le temps de Pâques. Pendant le temps de Pâques, c'est les actes des apôtres qu'on lit in extenso. Mais sinon, pendant le reste de l'année, le dimanche, c'est toujours une lecture de l'Ancien Testament qui est choisie en correspondance avec l'Évangile. Hein, donc, il peut y avoir une annonce, Et du coup, c'est intéressant aussi de voir que concrètement, dans la liturgie, donc on nous aide à faire des liens aussi entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Hein, parce que, alors, il y a des adages qui disent « Le Nouveau Testament éclaire l'Ancien, l'Ancien donne des racines au Nouveau Testament. » Ou l'adage, c'est « Le Nouveau Testament est caché dans l'Ancien, l'Ancien s'accomplit dans le Nouveau. » Mais du coup, c'est bien. Pour nous, chrétiens, l'Ancien Testament est important aussi. Alors, c'est pas l'Évangile, mais c'est vraiment une préparation qui est importante. Et l'office par excellence chaque année, c'est la Vigile Pascale. Et là, alors là, on peut avoir toute une série de lectures de l'Ancien Testament, justement. Mais pour reparcourir un peu tout l'itinéraire du peuple de Dieu, donc il y a la création, le sacrifice d'Isaac, le passage de la mer Rouge, etc. Voilà, pour voir comment Dieu a préparé son peuple pour l'accueillir. Hein, de bien voir ce lien entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Et donc, pendant le temps pascal, donc c'est les actes des apôtres. Alors, c'est intéressant parce que du coup, on voit comment à partir de la grâce de Pâques, comment s'est construite l'Église, etc. Donc ça, c'est vraiment les actes des apôtres. Oui, voir comment cette grâce de Pâques s'est déployée tout au long des actes des apôtres. On voit aussi tous les choix qu'ils ont faits dans les actes des apôtres. Parce que Jésus a institué l'Église, mais après, il nous laisse notre liberté aussi pour... Il y a eu le choix de Matthias d'abord, après il y a eu le choix des diacres, après il y a eu ce qu'on appelle quelquefois le Concile de Jérusalem. Qu'est-ce qu'on fait avec la circoncision? Est-ce qu'il faut que tout le monde soit circoncis ou pas? Donc il y a eu beaucoup de choix qui ont été faits, mais comment, éclairés par l'Esprit Saint, ils se sont réunis, ils ont discuté, quelquefois c'était un peu animé, mais alors du coup c'est tous les actes des apôtres où on voit à partir du mystère de la mort et de la résurrection comment l'Église s'est développée. Après la première lecture, le dimanche, et puis en semaine aussi de toute façon, il y a un psaume qu'on appelle responsorial. Hein, donc ce psaume responsorial, il fait écho en quelque sorte à la première lecture. Alors les psaumes, c'est particulier, hein, puisque c'est à la fois une parole de Dieu et une parole adressée à Dieu, puisque c'est des prières, les psaumes. Donc, on prie Dieu avec les paroles qu'il nous a données. Idéalement, les psaumes, c'est fait pour être chanté, et même accompagné par la musique. Donc, n'hésitez pas à... Alors, ce qui est beau dans les psaumes, alors, c'est toute la détresse humaine ou toute la joie aussi, la crainte, les désirs, l'angoisse. Hein, tout ça, c'est vraiment exprimé dans les psaumes. Vous pouvez avoir une petite liste des psaumes que vous prenez selon votre état d'âme, selon que vous êtes dans la joie ou la tristesse ou l'angoisse. Il n'y a pas de mauvaise émotion devant le Seigneur. Après, on arrive devant le Seigneur comme on est. Certaines fois, ça vous arrive peut-être d'être en colère, je ne sais pas. Mais quelquefois, le psaume, « Pourquoi dors-tu, Seigneur? Qu'est-ce que tu fais ?» Mais le psalmiste reste toujours en relation avec Dieu. Même s'il est en colère, il reste quand même en relation avec Dieu. Et Jésus a prié avec le psaume. Hein, on voit que souvent dans l'Évangile, Jésus se réfère aux psaumes. À l'occasion des rameaux, hein, il y en a qui chantent « Hosanna au fils de David » et Jésus leur cite « De la bouche des tout-petits et des nourrissons, tu t'es ménagé une louange. » C'est dans le psaume 8. Oui, alors il cite aussi le psaume 109. Siège à ma droite jusqu'à ce que j'ai mis tes ennemis en dessous de mes pieds. Et on voit que pendant le moment de la Passion, Jésus a beaucoup repris des paroles de psaume. Hein. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Ça, c'est des paroles de psaume. Quelquefois, quand on ne sait pas justement s'exprimer dans la prière, on prend des psaumes. Et puis, peut-être des psaumes qui nous conviennent mieux à ce moment-là. Bon, dans la liturgie des heures, on ne choisit pas les psaumes, on est peut-être triste, mais il y a des psaumes de louange, etc. Donc c'est aussi se décentrer un peu de soi-même et voilà. Le dimanche, alors il y a le, vous savez, hein, donc une lecture de l'Ancien Testament, après le psaume, après des lectures. Alors ça peut être Saint Paul, c'est souvent Saint Paul. Alors ça, habituellement, cette lecture, elle n'a pas de rapport avec l'Évangile. Mais du coup, on suit des lettres de Saint Paul au fur et à mesure, la lettre aux Romains. Mais alors, c'est vrai que c'est un trésor, toutes ces lettres de Saint Paul. Bon, vous connaissez. Ce qui est intéressant avec Saint Paul, c'est que quelquefois, c'est des situations très, très, très concrètes. Mais comment, à partir de situations très concrètes, voilà, s'enracine notre foi? Ça, c'est le génie de Saint Paul. Oui, c'est qui parle de faits divers, à la limite, certaines fois, et puis après, qui voit comment la grâce de Dieu travaille dans ces faits divers, et comment Dieu est présent en toutes choses. Je ne vais pas vous lire les passages de Saint Paul. Troisième partie après, donc il y avait la première partie, c'était l'écriture et la liturgie, la deuxième, c'était les premières lectures. Et puis, maintenant, c'est l'Évangile. Alors là, je vais détailler plusieurs choses. Déjà, la procession avec l'évangéliaire. Alors, déjà d'entrée de jeu, on voit que pour l'Évangile, on lui accorde une solennité particulière. Parce que, comme le dit le Concile, les évangiles possèdent une supériorité méritée en tant qu'ils constituent le témoignage par excellence sur la vie et sur l'enseignement du Verbe incarné, notre Sauveur. Alors, du coup, il y a des marques d'honneur spécifiques. Alors déjà, c'est un ministre ordonné qui peut lire l'évangile pendant la liturgie, un diacre, un prêtre, un évêque. C'est pas un simple lecteur. Après, il y a de l'encens. Après, on bénit le diacre qui va proclamer. Il y a une acclamation après qui n'est pas la même que celle des autres lectures. On embrasse l'évangile. Bon. On se lève. On se fait une petite croix. Toc. Voilà, il y a des sièges souvent. Donc tout ça pour manifester qu'il y a une importance particulière. C'est pas la même chose que les premières lectures. Et ça commence dès le début de la messe quand le diacre, quand il y en a un, porte l'évangéliaire et l'amène jusqu'à l'autel. Alors, le pseudo-germain de Paris déclare que la procession de l'Évangile s'avance comme la puissance du Christ triomphant de la mort. Et du coup, il va le déposer sur l'autel. Pour souligner aussi la présence réelle du Christ dans sa parole, dans l'Évangile. Ça, c'est une première chose qui est marquante par rapport à l'Évangile. Une deuxième chose, c'est l'Alléluia, qui est fait pour être chanté. Vous savez ce que ça veut dire, Alléluia? Alors, Alléluia. Alléluia, c'est louer. C'est l'impératif du verbe louer, louer Dieu, donc Alléluia. Et Yah, c'est le diminutif du mot imprononçable, Yahvé. Donc c'est louer le Seigneur. Finalement, ça veut dire louer le Seigneur, l'Alléluia. Alors, il y a des beaux passages de Saint Augustin sur l'Alléluia. Par exemple, Alléluia signifie louer le Seigneur. Louons le Seigneur, frère, par la vie et les lèvres, par le cœur et la bouche, par la voix et la conduite. Dieu veut que nous disions l'Alléluia sans qu'il y ait désaccord en celui qui chante. Mettons à l'unisson notre vie et nos lèvres, notre voix et notre conduite. Je le répète, de peur que notre beau chant n'accuse notre conduite mauvaise. Chantons maintenant l'Alléluia au milieu de nos soucis, afin de pouvoir un jour le chanter en toute quiétude. Chantons Alléluia au milieu des dangers et des tentations, nous et les autres. Ici-bas, le chanteur doit mourir, là-haut, il vivra pour toujours. Ici, il chante l'espérance, là, la possession. Ici, c'est l'Alléluia de la route, là, celui de la patrie. Chante comme chante le voyageur, chante, mais marche. Chante pour soutenir ton effort, ne cultive pas la paresse. Chante et marche, qu'est-ce à dire, marche. Progresse, progresse dans le bien. Progresse en rectitude de foi, en pureté de vie, chante et marche. Alors, comme vous le savez, pendant le carême, on ne dira pas l'Alléluia, on nous en prive hein, pendant le carême. Et à la place de l'Alléluia, je ne connaissais pas ce... On chante le trait. En fait, le trait, c'est « Louange à toi, Seigneur Jésus », c'est ce qu'on met à la place de l'Alléluia pendant le temps du carême. Alors, pourquoi ? Ça, c'est juste pour le savoir, je ne sais pas si ça vous émeut beaucoup, mais... Le trait, pièce grégorienne, est exactement un psalmus tractus. Ça vous... C'est-à-dire un psaume chanté d'un trait. Aux origines de la liturgie chrétienne, le trait se différenciait du graduel en cela qu'un soliste l'exécutait en entier sans que l'assemblée ni même la scola n'intervienne. Voilà. Alors, bon, c'était juste pour que vous connaissiez le mot, que je ne connaissais pas. Et puis, dans certains cas, il y a aussi la séquence. Alors, il y en avait d'autres, maintenant il n'y en a plus que quatre. Vous voyez ce que c'est que la séquence ? Alors, il y en a à Pâques, le Victime, Pasquale, Lodès. Il y a la Pentecôte, hein, le Veni, Sancte Spiritus. Il y en a, qu'est-ce qu'il y a encore ? Il y a la séquence pour le 15 septembre, hein, pour le Sabbat Mater. Et puis, il y en a encore une quatrième, je crois. Ah ben si, bien sûr, pour la fête Dieu. Pour la fête Dieu, il y a une séquence. Alors, la séquence, alors en fait, c'est dans le prolongement de l'Alléluia. Ça, j'ai appris des choses. En... Et parce que l'Alléluia... Il fallait faire des ah jusqu'à ce que le diacre arrive jusque. Alors, du coup, il y en a, ils trouvaient que c'était un peu monotone. Donc, c'est comme ça que sont nées les séquences. Et ça vient des les moines francs, hein, qui imaginèrent de glisser des paroles sous les notes. L'Alléluia s'est donc vu prolongé dans la séquence. Voilà, on peut. Et du coup, voilà, en tout cas, on en a gardé quatre pour qu'on célèbre dans ces quatre fêtes. Donc, le diacre, pour l'évangile, donc c'est un ministre ordonné, donc j'ai déjà dit qu'il lit l'évangile. Et alors, voilà ce que dit l'évêque quand il remet l'évangile au diacre. Lors de l'ordination, recevez l'évangile du Christ que vous avez la mission d'annoncer. Soyez attentifs à croire à la parole que vous lirez, à enseigner ce que vous avez cru, à vivre ce que vous aurez enseigné. Croire à la parole, enseigner et vivre. Ce qui est intéressant, c'est que vivre, ça vient après enseigner. Mais qu'on désire vivre. C'est intéressant parce que les prêtres, sinon, je crois qu'on se tairait pour toutes les homélies. Si on disait, ben voilà, je vous enseigne parce que je le vis déjà parfaitement, on pourrait se taire. Mais du coup, je trouve que cet ordre, c'est pas anodin. Bon, mais c'est d'abord croire en cette parole, et après l'enseigner, là, voilà. Et après la vivre. Alors, bien sûr, on n'enseigne que si on a le désir de la vivre, sinon ça serait de l'hypocrisie, et puis voilà. Donc il y a toujours un petit cérémonial avant de proclamer l'évangile. Ça fait partie aussi de la solennité qu'on accorde à la lecture de l'évangile. Souvent, alors soit c'est le diacre qui vient demander la bénédiction au prêtre, soit le prêtre qui s'incline devant l'autel, etc. Donc, alors vous savez ce que dit le prêtre quand il s'incline devant l'autel? Non? Vous dites pas la prière, vous, hein? Purifie mon cœur et m'élève, Dieu très saint, pour que je fasse entendre à mes frères la bonne nouvelle. Mais c'est cette conscience aussi que, voilà, c'est pas simplement Père Intel qui dit la parole, mais on veut vraiment être l'instrument du bon Dieu pour annoncer la parole. Alors ça, c'est le pape François qui disait ça. Dans la messe, nous ne lisons pas l'évangile pour savoir comment les choses se sont passées, mais nous écoutons l'évangile pour prendre conscience de ce que Jésus a fait et dit un jour, que cette parole est vivante. La parole de Jésus qui est dans l'évangile est vivante et arrive à mon cœur. C'est pour cela qu'écouter l'évangile est si important avec le cœur ouvert, parce que c'est une parole vivante. Nous écoutons l'évangile et nous devons donner une réponse dans notre vie. Alors, dans les évangiles du dimanche, on a presque tous les évangiles. Alors, une petite... quand est-ce qu'on lit l'évangile de Saint Jean le dimanche? Je vous pose l'école. En fait, dans la lecture des évangiles, il y a vraiment la lecture il y a 3 années pour les 3 synoptiques. Et après, on bouche les trous avec ça. Enfin, on fait peut-être un peu mieux que ça, boucher les trous. Et on efface. Hein. Mais ça veut dire qu'il y a des périodes. Par exemple, l'évangile de Saint Marc est plus court que les autres évangiles. Donc, pendant l'été, quand c'est l'évangile de Saint Marc, au moment du mois d'août, c'est des évangiles de Saint Jean sur le discours du pain de vie. Mais aussi, pendant la semaine, en tout cas, on lit l'évangile de Saint Jean. Le début de l'évangile, on lit après Noël, pendant la semaine. Et on le lit du 5e dimanche de carême jusqu'à la Pentecôte. En semaine, c'est l'évangile de Jean. Hein, donc, c'est les moments privilégiés. Mais du coup, chaque année, en tout cas, on a la totalité des évangiles. Après, par exemple, pour le Vendredi Saint, c'est Saint Jean qu'on lit, tandis que le dimanche des Rameaux, ou c'est aussi le dimanche de la Passion, c'est les 3 synoptiques. Voilà, en tout cas, c'est les liturges qui ont essayé de faire en sorte qu'on puisse en profiter au maximum. J'aime bien l'icône qui est dans l'oratoire. Il y a l'icône de Jésus en gloire, et autour de Jésus... Ah oui, alors, il y a les grands personnages, on va dire, il y a Marie et Jean-Baptiste de chaque côté de Jésus, et après, à côté de Marie, c'est Saint-Joseph, et de l'autre côté, Saint-Jean l'évangéliste. On a mis les 2 premiers serviteurs de Jésus et de Marie à chaque extrémité, mais autour de Jésus, sur l'icône, oui, c'est ça, ce qu'on appelle le tétramorphe, hein, donc, qui sont représentés un aigle, un fils d'homme, un taureau et un lion. Merci. Voilà, qui représente les évangélistes. Et moi, j'aime bien la manière dont c'est représenté parce qu'on voit que chacun voit Jésus sous un angle un peu différent. Et en fait, c'est 4 regards sur Jésus. Mais vous, vous êtes appelé à voir aussi votre regard sur Jésus, quelque part. Et on n'a pas essayé de faire en sorte de faire qu'un évangile. Non, au contraire, je trouve que c'est plus une richesse, parce que c'est qu'un point de vue sur Jésus. Sinon, il n'y aurait pas de relief. Hein. Le relief, c'est quand il y a plusieurs points de vue. Hein. Mais voilà, c'était juste un excursus. Voilà. Mais si vous voulez que je vous commente l'icône un jour, je pourrais le refaire. Voilà, alors, on continue. Après l'évangile, c'est l'homélie. Alors, il y a des détails très concrets, je trouve qu'ils sont intéressants dans la présentation du missel. Il dit, non, quand même, si pour mettre vos papiers pour l'homélie, vous enlevez l'évangile, au niveau symbolique, c'est pas très bon. Parce que votre parole, elle prend pas la place de l'évangile. Alors, dans la liturgie, on est attentif à ces petits signes aussi, que c'est une certaine cohérence. Alors, je suis en train d'y réfléchir aussi pour nous, aussi comment laisser l'évangile vraiment à l'honneur pour le reste de la messe. Et que, voilà. En tout cas, que ce ne soit pas notre parole qui prenne la place de la parole de Jésus. Ça serait le comble. Elle est juste là pour essayer de la peut-être mieux la comprendre, etc. Et alors, l'homélie a été remise quand même à l'honneur beaucoup avec le Concile Vatican II. Voilà ce qui est dit dans l'introduction du missel. Alors, c'est jamais un laïc. Voilà ce qu'il rappelle. Les dimanches et fêtes de précepte, l'homélie est requise à toutes les messes qui se célèbrent avec concours de peuple et ne peut être omise que pour un motif grave. Elle est recommandée les autres jours, suite aux féries. Vous savez ce que c'est qu'une férie ? Une férie, c'est un jour ordinaire où il n'y a pas de saint, où voilà, c'est... aux féries de l'Avent, du Carême et du temps pascal, ainsi qu'aux autres fêtes et occasions où le peuple se rend à l'Église en plus grand nombre. Donc, l'Église nous invite à faire une homélie. Alors, elle nous invite aussi à préparer l'homélie pour, si possible, que... pas vous endormir trop. Bon. Je dois vous avouer, hein, moi, c'était vraiment ma pénitence. Un peu moins maintenant, mais au début, bon, allez, je faisais ma... Mais c'était pas trop mon truc. Mais bon, après, on fait ce qu'on peut. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on fait pendant l'homélie ? Ben, voilà ce que disait le cardinal Sarah. Parce qu'il y a eu un directoire sur l'homélie qui a été fait en 2015. Alors, il présentait ce directoire et il disait « L'homélie est un service liturgique réservé au ministre ordonné qui est appelé par vocation à servir la parole de Dieu selon la foi de l'Église. Elle n'est pas un discours quelconque, mais une parole inspirée de la parole de Dieu qui résonne dans une assemblée de croyants, dans le contexte d'une action liturgique, en vue d'apprendre à pratiquer l'évangile de Jésus-Christ. » C'est où le pape François disait, c'est pas un discours de circonstance, ni une conférence, hein, c'est autre chose. Et quelque part, alors, après, on fait comme on peut, hein, mais à ce sujet-là, c'est des laïcs qui m'ont aidé, et d'ailleurs qui est de la région. Alors, il y en avait dans plusieurs diocèses, mais dans le diocèse, il y avait des laïcs qui s'étaient proposés pour animer des sessions, optimiser les homélies. Je ne citerai pas leur nom, mais ben, il n'y a que des volontaires qui s'y inscrivent à ces sessions. C'est peut-être pas forcément toujours ceux qui en ont le plus besoin. En fait, l'idée parlait, c'est tout simple, il y a quelqu'un qui allait à la messe le dimanche, trouvait que les homélies, quand même, c'était pas à la hauteur. Et dit, plutôt critiquer, ben, je peux peut-être donner quelques pistes d'amélioration des homélies. Et du coup, c'est comme ça qu'il a proposé ça. Et donc, ça s'est fait dans un certain nombre de diocèses. Alors après, c'est que les volontaires qui... Alors, donc ici, il y a quelqu'un qui était venu, donc plusieurs frères étaient... Allez, et moi, ça m'a aidé. C'est depuis ce temps-là que je prêche en trois points, là. Mais, oui, alors, voilà, pour dire que, bon, il y a celui qui essaie de préparer son homélie comme il peut, mais n'hésitez pas, si vous avez des initiatives pour aider les prêtres, alors il faut qu'ils acceptent encore, ça c'est une autre affaire, mais en même temps, c'est un service que vous pouvez rendre. Hein, on est une communauté, donc il faut s'entraider. Il faut s'entraider, c'est ça. Alors, je vous raconte une histoire à ce moment-là. Une histoire, c'est un prêtre qui dit, ah là là, il y a des prédicateurs là du renouveau charismatique, mais ah, ils ont du feu et tout ça. Donc, ben, moi, je vais faire pareil, je vais prier l'Esprit Saint, et puis voilà, ça ira. Et puis, et puis voilà, donc je fais confiance à l'Esprit Saint, je fais confiance à l'Esprit Saint. Donc, il arrive le dimanche, il arrive devant son pupitre, et il prie intérieurement, Seigneur Esprit Saint, viens m'éclairer. Et il entend une voix, t'es un fainéant, t'aurais pu travailler un peu quand même. Alors, bien sûr, il faut prier l'Esprit Saint, mais il faut travailler aussi. Les deux. Alors, quelqu'un prenait un exemple que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il est assez parlant, en tout cas pour moi. Il disait, mais c'est comme quelqu'un qui travaille un sujet. Il va dans la bibliothèque, il lit pas mal de choses. Et après, au moment de l'homélie, c'est là qu'il se rappelle de telle ou telle chose qu'il a lu, mais il a travaillé avant. Mais l'Esprit Saint le rend attentif à telle ou telle parole qu'il faut dire. C'est le père Manarange qui disait, quelquefois les homélies, on ouvre le robinet d'eau tiède. Alors, bon, mais c'est vrai qu'après, on n'est pas toujours très inspiré, il faut bien le dire. Mais de les préparer en avance, c'est toujours très précieux.
Vous n'avez pas d'indication de temps. En fait, dans la rentrée, les prêtres,
Alors, pour moi, c'est toujours un peu délicat, cette question. Alors, il y en a qui disent 7-8 minutes, voilà. Alors, il ne faut pas que ça soit trop long. En même temps, c'est le moment quand même où on peut donner un petit enseignement, même si ce n'est pas d'avoir un enseignement, mais beaucoup, en dehors de la messe du dimanche, n'ont pas beaucoup de nourriture spirituelle. Donc, je me dis... Si je presse 2 minutes, ça serait quand même pas, ça serait pas honnête vis-à-vis de. Ça dépend du contexte aussi. Il y a des contextes de grandes fêtes où voilà. Donc moi je suis pas pour forcément minuter. 4 minutes, ça peut être 10 fois trop long avec certains prêtres, et quelquefois un quart d'heure, c'est pas du tout trop long. Ça dépend un petit peu si c'est préparé, si. Ça dépend un peu. Alors si après, je vous fais part de mon expérience, mais vous avez de l'expérience pour entendre aussi. Quelquefois, c'est l'avion, on croit qu'il va atterrir, hein, et hop, il redémarre. On est découragé. Voilà. Alors, je vois que l'homélie ne vous laisse pas indifférent, mais je pense que. Je pense qu'il y a besoin d'une correction fraternelle aussi à ce niveau-là, autant qu'on le peut, pour voir. L'idée, c'est que ça fasse du bien. Si ça fait plus de mal que de bien, voilà. Enfin, si ça endort les gens, c'est pas le but. Bon. Et dernier point, toujours sur l'homélie, c'est la cathèdre. Tiens, j'en profite pour... vous savez ce que c'est qu'une cathèdre ? C'est le siège de l'évêque, hein, à la cathédrale. La cathédrale, c'est le lieu de la cathèdre de l'évêque. Alors, Léon XIV ne monte pas sur la cathèdre du Bernin, là. Vous voyez, elle est à quelques mètres de haut, au bout de Saint-Pierre. Vous voyez, la cathèdre qui est soutenue par des pères de l'Église en bronze. Hein, donc, mais non, il est. Mais donc, c'est le lieu de l'enseignement. Ce qui est intéressant, c'est que, en particulier dans le cérémonial des évêques, ils encouragent l'évêque à s'asseoir dans sa cathèdre pour enseigner. Bon, après, c'est pas forcément très très pratique, et puis on n'est pas forcément très visible, et voilà. Mais le Concile Vatican II disait que parmi les charges principales des évêques, la prédication de l'Évangile est la première. Avant de gérer son diocèse, c'est d'abord de prêcher l'Évangile. C'est intéressant de. Il est d'abord appelé à parler de Jésus plutôt que de gérer son diocèse, l'évêque. Ou, ça, c'est dans un document sur la charge pastorale des évêques. Dans l'exercice de leur charge d'enseigner, que les évêques annoncent aux hommes l'évangile du Christ. Cette charge l'emporte sur les autres, si importante soit-elle, et dans la force de l'esprit qu'il les appelle à la foi ou les confirme dans une foi vivante, etc. Donc, c'est vraiment, donc, ça fait partie d'une mission vraiment importante, de la première mission qui est d'enseigner. Voilà, ça c'était pour l'homélie. Après, le credo, c'est important de voir tout le mouvement de la liturgie de la parole. On écoute la parole, et le credo, c'est en quelque sorte notre réponse. La foi, c'est la réponse à Dieu qui se révèle. Ça, vous pouvez le graver en... La foi est la réponse à Dieu qui se révèle. C'est-à-dire que c'est Dieu qui a pris l'initiative de se révéler à nous, et nous, on accueille ce que Dieu nous a dit de lui-même. Et ça se réalise en particulier dans le credo, où on accueille justement cette... où on répond par la foi ce que Dieu nous a révélé. Alors, je vous lis un passage du catéchisme. Par la foi, l'homme soumet complètement son intelligence et sa volonté à Dieu. De tout son être, l'homme donne son assentiment à Dieu révélateur. L'Écriture sainte appelle obéissance de la foi cette réponse de l'homme au Dieu qui révèle. Et alors le credo, alors on dit au singulier, credo, je crois, mais on le dit tous ensemble. C'est une réponse commune, justement, tu sais. Le credo, alors, pourquoi on parle de symbole des apôtres? Alors, le symbole, oui, étymologiquement, hein, ça vient de symbolum. C'était comme deux objets qui étaient qui pouvaient s'emboîter. Ça permettait de se reconnaître. Ben, quelquefois, on ne fait pas ça, on déchire un papier, et voilà, il faut que ça colle bien. Et quelque part, le symbole, c'est en quelque sorte un signe de reconnaissance entre chrétiens. On croit la même chose, on partage la même foi. C'est ça le symbole des apôtres. Donc il y a un certain nombre d'articles dans le credo, justement, qui manifestent notre foi, que c'est pas... Dans la foi, on pourrait dire, il y a plusieurs aspects dans la foi. Il y a une foi plus objective, on va dire, une foi subjective, alors j'en emploie peut-être des grands mots, mais il y a un contenu dans la foi. Je crois pas n'importe quoi, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel. Et après, il y a la foi qui est plus une attitude subjective. Je fais confiance à Dieu. Hein, vous voyez, c'est deux choses essentielles, mais qui sont différentes. Hein, il y en a une, c'est plus une attitude de confiance. L'autre, c'est, il y a un contenu intellectuel dans ma foi aussi. Hein, c'est pas, je crois pas n'importe quoi. Et c'est pas dans l'obscurité complète. C'est voilà, il y a une Lumen Fidei, hein, cette encyclique du pape François qu'il avait hérité du pape Benoît XVI. Hein, c'est il y a une lumière dans la foi. Alors donc l'an dernier, on a mis à l'honneur justement le symbole de Nicée-Constantinople. Vous en avez entendu un petit peu parler, hein, puisque c'était le 1700e anniversaire du concile de Nicée. Donc, mais du coup, à ce moment-là, alors Nicée c'est 325, et après Constantinople c'est 381, donc il a complété un peu différentes choses, mais du coup, voilà, à partir de ce moment-là, on a le socle commun de tous les chrétiens, de la foi de tous les chrétiens. Alors après, il y a l'histoire du filioque qui est venu s'ajouter et perturber un peu les choses, mais sinon, c'est vraiment notre foi. Un chrétien, on le reconnaît à ce qu'il peut dire ce credo, le symbole de Nicée-Constantinople. C'est vraiment un signe de reconnaissance, d'appartenance, on pourrait dire. Voilà. Ça, c'était sur le credo, et j'arrive au dernier point, sur la prière universelle. Alors ça, on obéit en quelque sorte à Saint Paul dans la première épître à Timothée, au début, voilà ce qu'il dit au chapitre 2. Je recommande donc avant tout que l'on fasse des demandes, des prières, des supplications, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et ceux qui détiennent l'autorité, afin que nous menions une vie calme et paisible en toute piété et dignité. Et là, on l'appelle aussi, alors c'est pas innocent, on l'appelle la prière des fidèles. On verra après, c'est un peu l'intersection entre la liturgie de la parole et la liturgie eucharistique. Et c'est très ancien, dès l'an 150, il y avait déjà des prières universelles. Après Saint-Augustin, après Gélase, c'est au 5e siècle, il y a eu une belle prière universelle. Et puis après, elle a disparu, la prière universelle. Alors, pourquoi elle a disparu? Ben, peut-être qu'on en rajoutait trop et au bout d'un moment, on trouvait que c'était... Et du coup, après, elle est née en France, elle est renée au Moyen-Âge en France, les prières du prône. Et du coup, c'est le Concile Vatican II qui a voulu rétablir cette prière universelle, donc l'Église universelle. Et quand, dans la prière universelle, les fidèles exercent leur sacerdoce baptismal, ils exercent leur fonction sacerdotale, dit l'introduction au missel. Et alors, on a parlé que le credo, c'était, on répond à la parole de Dieu par la foi, en disant notre foi. Là, c'est sous un angle un peu différent, on croit que Dieu va nous exaucer. C'est la prière universelle, s'il n'y a pas la foi, ce n'est pas la peine, quoi. Hein, donc. Et du coup, c'est aussi, sous un angle un petit peu différent, mais c'est aussi une réponse à la parole de Dieu. Je crois que quand Jésus dit « tout ce que vous demandez, vous l'obtiendrez », je crois à cette parole de Jésus. Et alors, j'y vais, puisque j'y crois, je demande à Dieu d'intervenir pour telle ou telle chose. Et ça, c'est partie du sacerdoce baptismal, je trouve que c'est intéressant. Alors, je vous lis l'introduction au missel encore. Dans la prière universelle, qui est la prière des fidèles, le peuple répond en quelque sorte à la parole de Dieu reçue dans la foi, exerçant la fonction de son sacerdoce baptismal, présente à Dieu des prières pour le salut de tous. Alors, c'est aussi une prière qui est universelle. Ça veut dire qu'on ne prie pas uniquement pour monsieur un tel, madame un tel, etc., mais... On élargit aussi notre préoccupation à toute l'humanité, pas seulement les croyants, mais ceux qui souffrent, qu'ils soient croyants ou pas. Donc c'est un moment où on élargit vraiment notre... et pas seulement mes problématiques personnelles. Sinon, elle n'est plus universelle. Hein. Donc il y a plus ou moins d'intention, mais souvent il y a pour les besoins de l'Église, pour les dirigeants des affaires publiques et le salut du monde entier... pour ceux qui sont accablés par toutes sortes de difficultés et pour la communauté locale. C'est un peu les quatre, mais on peut en rajouter un petit peu, mais pas trop. Voilà. Et alors, je trouve que c'est beau de voir que cette prière universelle fait en quelque sorte la transition entre la liturgie de la parole et la grande prière eucharistique. Alors après, c'est vraiment l'intercession par excellence, l'intercession de Jésus, hein, qui offre sa vie pour nous sauver. Hein. Donc, ça nous permet d'entrer dans cette deuxième partie de la messe. Et alors, c'est le prêtre à ce moment-là qui est davantage présent et qui exerce vraiment son ministère pour célébrer l'Eucharistie. Voilà, en un peu rapide, un peu sur la liturgie de la parole. Je ne sais pas si vous avez des questions.
Est-ce que quand il y a des funérailles qui sont
dites par des laïcs, j'ai l'impression que la homélie, une sorte de lit. De fait, alors moi, je ne serais pas plus royaliste que le roi. Alors, c'est une vraie question aussi de savoir, il peut y avoir peut-être dans certains cas, alors ça ne serait pas une homélie à proprement parler. Bon, déjà, ce n'est pas une messe. Ça peut être un commentaire, alors ça peut se rapprocher un peu d'une homélie, mais malgré tout... Alors, c'est une question pour que chacun soit vraiment à sa place, que pas prendre la place les uns des autres, qu'on voit que ce n'est pas un prêtre. Et en même temps, je pense un mot d'exhortation peut être bien aussi, mais ça peut être autre chose qu'une homélie. Je vais prendre un exemple. enfin un exemple, je ne sais pas si c'est un exemple, mais Saint François d'Assise, alors lui a été diacre, hein, mais la plupart de ses frères n'avaient pas le droit de prêcher, mais ils avaient le droit d'annoncer la pénitence, enfin d'inviter à la pénitence. Donc, quelque part, ils ne prêchaient pas la doctrine, ça c'était réservé aux prêtres ou aux diacres, mais c'était plus au niveau spirituel, une harangue spirituelle pour inviter les gens à changer de vie, à se convertir et à aimer Jésus. Mais du coup, c'était très différent. Ils n'étaient pas chargés d'annoncer la doctrine de l'Église. En tout cas, c'est des choses, ça a besoin d'être travaillé, etc. Effectivement, il faut que ça soit juste. Au-delà de ça, c'est voir aussi si c'est... Est-ce que je le fais parce que j'ai reçu un mandat de la part de l'Église ? Ou est-ce que je le fais parce que j'ai un talent naturel particulier ? Il y a des laïcs qui savent bien mieux parler que les prêtres. Mais on n'est pas dans le même domaine. Alors, je ne sais plus si c'était avec vous ou pas. Je trouvais intéressant, pour David, il n'y a pas très longtemps, je n'avais jamais réalisé ça. Vous vous rappelez que David a voulu faire monter l'arche. Mais au début, il était un peu calmé parce que l'arche était sur un chariot et le chariot va verser. Il y en a un qui veut rattraper, qui met la main pour rattraper pour que ça tombe. Foudroyé sur place. Oh, alors David se dit, je vais quand même pas plaisanter. Hein. Donc il met le chariot chez Obed-Edom. Et puis, la maison d'Obed-Edom est bénie et tout ça. Alors, il dit, ah ben non, je ne vais pas lui laisser, je vais la faire monter jusqu'à Jérusalem. Mais la différence, alors là, il prend des précautions, c'est qu'il ne fait appel qu'à ceux qui sont mandatés, les Lévites, et non pas le premier venu qui n'était pas mandaté. Et tout se passe bien, il danse devant l'arche, etc., mais tout se passe bien. Mais je trouve qu'il y a quelque chose qui est intéressant aussi. Voilà, est-ce que j'ai reçu un certain mandat de la part de Dieu pour telle ou telle chose ou pas ? C'est aussi à vivre dans la foi et par l'Église, hein, ça nous vient par l'Église. C'est des choses aussi qui se sont réfléchies, notamment au moment du synode sur l'Amazonie, hein, quand il manque des prêtres, etc., mais ça peut être dans certains lieux aussi. Parce qu'il y a les catéchistes, par exemple, ont une vraie mission. Alors, il y a les catéchistes en France, mais les catéchistes dans d'autres pays, ou alors ils ont une vraie mission d'enseignement. Mais là, ça se réfléchit aussi pour être en quelque sorte mandaté par l'Église pour cette mission. Et que ce ne soit pas quelque chose d'un peu sauvage.
Vous avez parlé, aujourd'hui,
alors souvent, alors à vrai dire, j'avoue mon ignorance. En tout cas, il y avait l'homélie qui était faite de la chair. Je ne sais pas si l'évangile était proclamé de la chair. Quelle ignorance, hein, mais l'homélie, oui. Alors c'était une question très pratico-pratique pour que tout le monde entende. En tout cas, dans l'architecture actuelle, c'est quand même que vraiment ça soit dans le cœur, hein, que je n'ai pas lu, mais de dire voilà, la liturgie de la parole et la liturgie eucharistique, ça fait partie vraiment du même de la même action liturgique, on pourrait dire. Donc il faut qu'au niveau des lieux, quelque part, voilà, ça soit pas trop éloigné l'un de l'autre et que. Donc, idéalement, c'est quand même dans le cœur que prend place l'ambon. Alors, il faut voir comment on le met, etc. Voilà. Mais oui, idéalement, c'est quand même plutôt là.
Merci.